Laudetur Jesus Christus.
Goma aux mains des rebelles du M23 du Rwanda, inquiétude de la communauté internationale et notamment de l'ONU pour la situation humanitaire. Les présidents congolais et rwandais doivent se rencontrer aujourd'hui à Nairobi. Sortie officielle aujourd'hui du Burkina Faso, du Niger et du Mali, de la CDAO, épilogue des relations plus que difficiles entre les juntes militaires de ces trois pays, issus de coups d'État et l'organisation régionale. Près de 400 000 Palestiniens sont retournés dans le nord de la bande de Gaza malgré un territoire dévasté où les infrastructures de base ont été détruites. La preuve d'un esprit de résilience selon Mgr Chomali du Patriarcat latin de Jérusalem. Gel de milliards de dollars d'aide publique par l'administration américaine pour l'étranger comme pour les États-Unis. Cette décision de Donald Trump provoque un tollé, la justice est déjà saisie. L'intelligence artificielle, le Saint-Siège a publié hier une note dense sur ce sujet majeur. Comment se comporter vis-à-vis d'elle? Nous en parlons avec Mgr Paul Vanni du Dicaster pour la culture et l'éducation dans notre dossier.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Plus de 100 morts et près de 1000 blessés. C'est le bilan parmi les civils et les militaires des combats des derniers jours à Goma entre l'armée congolaise et les rebelles du F-23 soutenus par le Rwanda. Mais c'est au Kenya que va peut-être se jouer le sort de la capitale de la province du Nord Kivu, puisqu'une rencontre réunira aujourd'hui les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame. Et il y a urgence, tant Jean-Charles Puzolu, l'Est du Congo sombre dans le chaos.
Oui, Xavier, effectivement, c'est dans ce contexte de négociation aujourd'hui au Kenya qui pourrait déboucher sur un cessez-le-feu que la situation de Goma devient de plus en plus critique. La ville est tombée entre les mains du mouvement du 23 mars et les soldats rwandais qui le soutiennent. Et pour l'instant, rien ne laisse supposer que cet état de fait soit réversible. L'aéroport et le siège du gouvernement de la province sont passés sous le contrôle des rebelles. Les militaires congolais se sont défaits de leur uniforme pour garantir leur survie et ont pris la fuite. Plus d'un million d'habitants et des centaines de milliers de déplacés se retrouvent dans une situation humanitaire critique et sans électricité. Le déluge de feu qui s'est abattu sur la ville a contraint le programme alimentaire mondial à mettre en pause l'acheminement de l'aide humanitaire dans la ville assiégée où des sérieuses carences alimentaires sont déjà signalées. La Croix-Rouge craint de son côté une crise sanitaire si jamais des souches du virus Ebola conservées dans des laboratoires devaient être mises en circulation volontairement ou accidentellement. Le maire de Goma, contacté par une ONG, a lancé un appel désespéré au cessez le feu, dénonçant les violences et les saccages dont sont victimes des millions de personnes dans l'ensemble de la province du Nord Kivu.
Jean-Charles Puzolu. Et la chute de Goma, elle préoccupe les chancelleries internationales. On a vu l'initiative de médiation kenyane. Les États-Unis aussi se mobilisent. Le nouveau secrétaire d'État, Marco Rubio, a appelé un cessez-le-feu immédiat et au respect de la souveraineté territoriale du Congo lors d'une conversation téléphonique avec Paul Kagame. Ce dernier a salué une conversation productive, affirmant vouloir s'attaquer aux racines profondes de ce conflit. En RDC, notamment à Kinshasa, la population elle est en colère. Des manifestants s'en sont pris hier à plusieurs ambassades pour dénoncer ce qui se passe dans l'est du pays. Les représentations du Rwanda, de la France, de la Belgique, de l'Ouganda ou des États-Unis notamment ont été prises pour cible. Journée de liesse au Mali, au Niger et au Burkina Faso hier. Des manifestations étaient organisées dans ces trois pays pour saluer leur sortie de la CDAO, l'organisation régionale avec qui les juntes au pouvoir sont en conflit ouvert depuis leur prise du pouvoir. Il y a un an, les militaires avaient exprimé leur volonté de s'émanciper de la CDAO, trop inféodée à leurs yeux aux pays occidentaux. La route est donc ouverte pour l'Alliance des États du Sahel, l'AES, comme décidé le week-end dernier. À Ouagadougou, Lamine Traoré.
Oui, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ont eu une convergence de vues sur l'approche globale des futures négociations avec la CDAO dans l'intérêt supérieur des populations, selon le communiqué final de la réunion ministérielle. Quel avenir pour une CDAO faisant face aux vives critiques des populations de ces trois pays et qui la qualifient d'instrument de l'Occident? Une CDAO des chefs d'État et non une CDAO des peuples, disent-elles. Il y a quelques jours, la CDAO avait notifié les pays de l'AES pour enclencher des discussions en vue de leur retrait définitif. Les pays de l'AES, eux, semblent ne plus faire marche arrière, car décidés à s'émanciper, ils ont déjà présenté leur passeport. Ouagadougou, Lamine Traoré pour Radio Vatican.
Maintenir une présence en Méditerranée, c'est la priorité de la Russie qui veut conserver ses deux bases militaires en Syrie. Mais la chute de son allié Bachar al-Assad pousse Vladimir Poutine à devoir négocier avec le nouveau régime de Damas. Hier, deux hauts responsables russes sont rendus dans la capitale syrienne. Une première depuis la prise du pouvoir par les islamistes de HTS. 376 000 Palestiniens environ, c'est le nombre d'habitants de la bande de Gaza ayant rejoint pour la plupart à pied le nord du territoire en l'espace de deux jours. C'est le chiffre avancé donc par l'ONU. Parmi eux, un quart d'enfants, mais aussi de nombreuses personnes âgées, des handicapés ou des malades chroniques. Autant de personnes qui auront besoin de soutien et qui retrouvent des villes entièrement détruites ou presque, et où les infrastructures de base n'existent plus. Ce qui ne les a pas dissuadés donc de retourner chez eux, Mgr William Chomali, vicaire du patriarcat latin de Jérusalem et auxiliaire pour la Palestine.
C'est paradoxal. Quelqu'un qui revient au nord dans cette situation où il ne trouvera rien, il n'y a pas de tente, il n'y a pas de service sanitaire, il n'y a pas d'hôpitaux, tout est perdu. Parfois les maisons sont rasées à sol. Et retourner content et joyeux, c'est un paradoxe, inexplicable vraiment. Si on connaît les gens de Gaza, on peut comprendre mieux ce paradoxe. Les gens de Gaza sont des gens qui ont souffert beaucoup. 5 guerres en période de 12 ans. Je ne sais pas s'il y a un peuple qui a souffert comme eux. Mais cette fois, c'était une guerre longue, 15 mois. Ce sont des gens vraiment qui ont beaucoup de résilience, beaucoup de force morale. Ça explique aussi ce fait qu'ils reviennent joyeux à leur maison, à leur quartier. Ils vont d'une manière très spontanée qui est parfois inexplicable.
Mgr William Chomali, vicaire du patriarcat latin de Jérusalem, auxiliaire pour la Palestine. Il était au téléphone avec Marie Duhamel. Et pour venir en aide à ces Palestiniens qui ont donc tout perdu, ce ne sera théoriquement pas l'UNRWA en tout cas, puisque l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens présente depuis 7 décennies dans le territoire ne devrait plus pouvoir y exercer sa mission à compter de demain. C'est ce qu'a confirmé le gouvernement israélien. Les États-Unis soutiennent cette position au grand dam des Nations Unies qui considère qu'elle met en danger l'avenir même des Palestiniens, d'autant qu'aucune alternative n'a été pour l'instant trouvée. Aux États-Unis, Donald Trump continue de mettre l'État fédéral au pas. Le nouveau président a suspendu hier le versement de milliards de dollars d'aides publiques en tout genre. Le républicain souhaite faire une revue d'ensemble afin de s'assurer de la conformité de ces aides, dit son administration, avec les priorités présidentielles. Un tribunal a rapidement gelé cette décision qui concerne au moins en théorie des centaines, voire des milliers de milliards de dollars distribués partout dans le pays. À New York, Loïc Joury.
Des bourses étudiantes, des aides d'urgence suite à des catastrophes naturelles ou des prêts aux entreprises, le périmètre des dépenses gelées par Donald Trump est aussi vaste que difficile à circonscrire. Pour s'en faire une idée, l'État fédéral a déboursé l'an dernier plus de 3 000 milliards de dollars d'assistance financière. Après les aides internationales, c'est donc aux États-Unis que le président veut sévir et arrêter, dit son administration, de financer l'équité marxiste, le transgenrisme et l'ingénierie sociale. Cette annonce, aux conséquences incertaines, a immédiatement suscité la colère des démocrates, mais aussi de l'inquiétude dans les États les plus républicains, tout aussi dépendants que les autres aux aides fédérales. La situation, quoi qu'il en soit, n'en restera pas là. Des ONG et une vingtaine d'États ont déjà porté plainte, estimant que Donald Trump ne pouvait pas supprimer des aides votées par le Congrès. Un juge de Washington leur a donné raison en attendant une audience lundi prochain. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Bousculade meurtrière en Inde lors du pèlerinage hindou de la Kumbh Mela. 15 personnes sont mortes la nuit dernière alors qu'elles se dirigeaient vers le Gange pour un bar rituel. Ce drame a pris une tournure politique. Le chef de l'opposition, Rahul Gandhi, dénonçant la mauvaise gestion des autorités. Le Premier ministre Narendra Modi a lui présenté ses condoléances aux familles des victimes. L'intelligence artificielle, pièce maîtresse de la bataille stratégique technologique. La journée de ce lundi a manifesté l'affolement des bourses mondiales face à l'éruption d'un nouvel acteur sur le marché de la tech, l'IA chinoise DeepSeek, qui vient perturber les ambitions déjà monopolistiques des États-Unis en la matière. Cela montrait un exemple éloquent de la nouvelle course effrénée aux innovations comme nouvel outil de puissance. À diffusion très rapide, complexité technique, la disruption de l'IA se déploie à très grande échelle avec des effets difficilement mesurables. Dans ce contexte, le Saint-Siège et la parole de l'Église qui s'est toujours positionnée sur les révolutions techniques est attendue. De Dicaster publiait hier un dense document pour expliquer l'IA et le regain d'éthique, de responsabilité, liberté, volonté qu'elle sous-tend. Équilibré, le texte complète le message du pape pour la paix de 2024, déjà dédié à l'IA, ainsi que son discours de juin dernier prononcé sur ce sujet au G7. Le moment est historique et le Saint-Siège vient l'éclairer. Nous en parlons avec l'un des rédacteurs d'Antiqua et Nova, Monsieur Carlo Maria Polvani, sous-secrétaire du Dicaster pour la culture et l'éducation.
Est-ce que les gens qui vivent un moment historique s'en rendent-ils compte? C'est très difficile parce qu'on est dans ce moment. Nous avons une idée de ce que l'intelligence artificielle fera à notre planète et à l'homme, grosso modo en utilisant comme analogie ce que la révolution industrielle a fait à partir de 1800. C'est-à-dire que nous sommes très probablement devant des très très grands changements. Ce qui est difficile de prévoir, c'est l'ordre de grandeur. Certains disent que ça va être 10 fois plus, certains 100 fois plus, certains 1000 fois plus. La position la plus extrême, c'est que l'homme devient avec l'intelligence artificielle avec ce qu'on appelle les NBICs, les nanotechnologies et toutes les autres technologies qui sont en train de se développer, la première espèce de cette planète à devenir maître de son destin, même d'un point de vue évolutionnel. Alors ça, c'est la position la plus extrême. Je crois que raisonnablement, on ne peut pas savoir au-delà de 50 ans. Mais dans les prochaines 50 années, nous devons nous attendre à des changements d'un ordre de grandeur très, très, très grand.
Dans ce contexte vertigineux, quelle parole de l'Église, du Saint-Siège attendre? Quelle est l'intention de ce document?
L'Église ne veut pas rester sans parler devant un phénomène qui va être de toute façon énorme. D'abord, ni diaboliser l'intelligence artificielle, ni l'idéaliser. Il faut en voir les dangers, il faut en voir aussi les côtés qui vont être très bénéfiques pour l'humanité. Donc il ne s'agit pas de perdre la tête et de passer du côté où des défaitistes, ça va être la fin de l'humanité, ça va être un désastre, ni du côté des enthousiastes, voilà, la race humaine va changer complètement. L'Église voit un danger dans cet magnifique outil qu'on a. Le côté positif, c'est que beaucoup de problèmes vont pouvoir être résolus, et c'est ce genre de jour. Moi, je pense à l'hôpital Cochin qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter le cancer des glandes mammaires. Et ça a été déjà un nombre incroyable de vies qui ont été sauvées. Je peux aussi imaginer que ce même outil, un jour, va être utilisé pour décider quelles femmes vont recevoir en premier les traitements, sans qu'un être humain décide ça. C'est un bon exemple des deux faces. Alors, l'Église dit ceci. Quoi qu'on fasse, il faut que l'humain soit toujours au centre. Et il faut que les plus faibles profitent, que les inégalités ne soient pas exacerbées par ce phénomène. Et malheureusement, quand on pense à la révolution industrielle, ce qui s'est passé, c'est que oui, il y a eu une croissance de niveau de vie en général, mais il y a eu des effets très néfastes. Et c'est pour ça qu'il faut le comprendre, et qu'il faut faire des choix dès maintenant, au niveau politique, au niveau anthropologique, au niveau philosophique, au niveau scientifique, pour limiter les effets néfastes. Le premier de ces effets néfastes, le pape l'a remarqué plusieurs fois, c'est qu'on enlève à l'homme sa dignité de choisir et de se déterminer.
Quelle est alors la juste place de l'intelligence artificielle dans notre civilisation?
Pour que les hommes soient meilleurs comme des êtres humains. Alors par exemple, au lieu de créer des inégalités, parce qu'on pense au plan social, l'intelligence artificielle peut être un outil incroyable pour réduire les inégalités. Certains pays, par exemple, je donne un exemple parce que nous, on est dans le domaine de l'éducation. Alors, dans le domaine de l'éducation, l'intelligence artificielle peut être utilisée d'une façon extraordinaire. C'est vrai qu'elle peut être utilisée aussi d'une façon très mauvaise, hein. Et il y a beaucoup d'élèves qui en profitent d'ailleurs, hein. Mais le côté positif, simplement le fait que de l'autre côté du bout du monde, même des gens qui n'ont pas accès à une bibliothèque peuvent trouver, grâce à l'intelligence artificielle, toutes sortes de données, de vérités à laquelle ils n'avaient pas accès. Il y a un aspect de démocratisation du savoir. C'est pour ça que les chrétiens doivent participer à l'intelligence artificielle, doivent être là. Parce que cet instrument accumule des données et il ne faut pas qu'elle s'accumule seulement de certaines catégories. C'est la connaissance collective qui est disponible à travers les instruments comme l'intelligence artificielle soit vraiment représentative. Et le pape l'a déjà dit, aussi des peuples autochtones, aussi des cultures indigènes. Par exemple, si on avait eu une intelligence artificielle il y a 500 ans, on aurait pu sauver les langues au Mexique, au Brésil, en Amazonie. On peut faire des choses extraordinaires avec l'intelligence artificielle. Donc, en réalité, le potentiel du faire du bien est exceptionnel d'un point de vue même, de tout le point de vue, mais certainement aussi même du culturel. On espère, on est confiant même, que l'humanité puisse faire ça.
Interrogé par Delphine Allaire, Mgr Carlo Maria Polvani, sous-secrétaire du Dicaster pour la culture et l'éducation, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h, heure de Rome. D'ici là, vous avez notre site internet ou notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.